Depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, l'accueil diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche collabore avec la Corée du Sud pour accroître la capacité des ressources humaines. La société anonyme PAL et le Danemark explorent de nouvelles opportunités dans l'industrie maritime. Le ministre de l'Industrie optimise la coopération entre l'Indonésie et le Japon par la recherche d'hydro. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche collabore avec la Corée du Sud pour augmenter la capacité des ressources humaines. L'une des collaborations qui sera réalisée par la construction d'un centre d'information maritime et halieutique en Indonésie. Le chef de l'Agence de l'extension et de développement des ressources humaines marines et halieutiques, Inyoman Radiarta, dans sa déclaration à Pontianak vendredi, a déclaré que cela visait à créer une main d'œuvre qualifiée pour faire progresser l'industrie et accroître les opportunités économiques dans le secteur maritime et de la pêche. Dans le secteur de l'éducation, selon Nyoman, son parti a collaboré avec la Corée du Sud à travers un projet d'aide au développement officiel ou l'aide publique au développement intitulé « La création d'un centre intégré de formation en technologie » des pêches maritimes et renforcement des capacités en Indonésie. Le projet est une étape importante dans le développement du secteur maritime et de la pêche indonésienne avec un budget de 7,5 milliards de won coréens. La société anonyme PAL Indonesia renforce sa coopération commerciale avec le Danemark en explorant de nouvelles opportunités dans l'industrie maritime afin d'offrir des avantages mutuels aux deux pays. Satrio Bintoro, le vice-président exécutif principal de la gestion de la transformation de Société Anonyme PAL Indonesia, dans sa déclaration à Surabaya vendredi, a déclaré qu'il était honoré par la première visite de l'ambassadeur danois Sten Frimod Nielsen et de son équipe dans son entreprise. C'est une bonne occasion d'approfondir les relations entre et explorer de nouvelles opportunités dans l'industrie maritime. Satrio a déclaré que le Danemark et l'Indonésie présentent de nombreuses similitudes en termes d'intérêt de l'industrie maritime. Selon lui, il existe de nombreuses opportunités de coopération mutuellement bénéfiques, notamment dans le développement de l'industrie maritime à travers Société Anonyme PAL Indonesia. La visite faisait suite à la rencontre entre l'ambassadeur danois Sten Frimod Nielsen et le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, Ilya Kielketang. Le ministre de l'Industrie de l'Indonésie, Agus Gumiwang Kartasasmita, optimis la coopération industrielle entre l'Indonésie et le Japon via des recherches menées par l'Organisation japonaise du commerce extérieur, ou JETRO. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, à Jakarta, a déclaré vendredi qu'en Indonésie, JETRO Jakarta avait joué un rôle important dans l'amélioration des relations économiques entre l'Indonésie et le Japon à travers des activités visant à améliorer les relations entre les hommes d'affaires des deux pays en renforçant les relations commerciales et d'investissement. Cela a été transmis par le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang lors de sa rencontre avec le président JETRO Ishiguro Norihiko à Tokyo au Japon. Selon Agus Gumiwang, JETRO a apporté des avantages au climat d'investissement industriel en Indonésie parce qu'il a mené l'enquête Business Conditions 2023 pour comprendre les conditions commerciales des entreprises affiliées au Japon et situées en Asie et en Océanie. Les résultats de l'enquête fournissent au gouvernement indonésien un aperçu des préférences commerciales des sociétés affiliées au Japon opérant en Indonésie, y compris les facteurs considérés comme des avantages pour faire des affaires et l'optimisme de l'entreprise pour faire l'expansion des investissements. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement arménien a annoncé sa reconnaissance de l'État de Palestine. L'Arménie a suivi un certain nombre d'autres pays en reconnaissant l'État de Palestine pendant la guerre à Gaza. L'Arménie, comme l'a rapporté l'agence de presse AFP, a déclaré vendredi que le pays s'oppose à la violation contre la population civile. Un certain nombre de pays ont reconnu l'État de Palestine au milieu de la guerre entre Israël et Hamas, suscitant ainsi de vives critiques de la part des responsables israéliens. L'Arménie en proie à un conflit avec son voisin Azerbaïdjan depuis des décennies a condamné les actions militaires d'Israël à Gaza. L'Arménie a ajouté qu'elle est véritablement intéressée par la construction d'une paix et d'une stabilité à long terme au Moyen-Orient. La Corée du Sud exhorte la Russie à mettre immédiatement fin à sa coopération militaire avec la Corée du Nord suite au dernier accord signé par Moscou et Pyongyang pour se fournir mutuellement une assistance militaire si l'un ou l'autre pays est attaqué. Le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun, a transmis la position de la Corée du Sud à l'ambassadeur de Russie en Corée du Sud, Georgi Zinoviev, vendredi à Séoul. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie pour protester contre l'accord signé par le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'un sommet à Pyongyang mercredi. Kim a souligné que la Russie doit agir de manière responsable et a déclaré que la Corée du Sud avec la communauté internationale traiterait avec fermeté toute action menaçant la sécurité. Kim a également déclaré que la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, viole les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le bilan des incendies de forêt dévastateurs qui ont frappé le sud-est de Turquie s'est alourdi à environ 12 personnes. Plus de 70 autres personnes ont été blessées. Comme l'a rapporté AFP samedi, cet incendie de forêt a brûlé la plupart des terres entre les villes de Diyarbakir et Mardin, situées près de la frontière syrienne. Le ministre turc de la Santé, Farhatan Koca, a déclaré qu'au moins de 12 personnes sont mortes et 78 personnes ont été blessées, la plupart étant dues à inhalation de fumée d'incendie. 5 des victimes blessées étaient soignées dans des unités de soins intensifs. Des incendies de forêt ont été faits rage dans la région. La jeune chasse aurait également causé la mort de centaines d'animaux. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de la Régence d'Aceh Jaya dans la province d'Aceh. Le gouvernement de Régence d'Aceh Jaya préserve la procession traditionnelle des Sumeleng aux grands invités qui ont lieu il y a des centaines d'années à Lamno, dans le district de Jaya. Le chef du service éducatif et culturel de la Régence d'Aceh Jaya, Ashari Aceh Jaya, a déclaré mercredi que la procession traditionnelle de Sumeleng est célébrée chaque année avec la célébration de l'Idul Adha. Selon lui, cette année, la procession de Sumeleng a été commémorée en invitant des rois d'Aceh et aussi de l'extérieur d'Aceh. Cette procession traditionnelle dure depuis 1480 après Jésus-Christ. La procession traditionnelle se termine par un repas ensemble. Ashari a déclaré que la procession Sumeleng était centrée à Asraka Diraja ou au palais royal Morodom Jaya. La Régence d'Aceh Jaya est réunie des milliers d'habitants de diverses régions d'Aceh. Il a déclaré que le gouvernement régional continuerait à préserver la procession traditionnelle du Sumeleng parce que la procession traditionnelle de Sumeleng est une preuve de l'histoire passée qui est encore préservée dans la Régence d'Aceh Jaya. Les nouvelles suivantes viennent de Samarinda, Kalimantan Oriental. Le gouvernement provincial du Kalimantan Oriental se prépare à organiser un festival culturel international, à savoir le Festival Folklorique International de Bornéo Oriental, dans la ville de Samarinda. Le secrétaire régional de la province de Kalimantan Oriental, Madame Sri Wahyuni à Samarinda, a déclaré mercredi que l'activité était prévu du 26 au 30 juillet 2024, en présence de participants de 8 pays, à savoir la Bulgarie, l'Égypte, le Japon, la Corée du Sud, la Pologne, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Le chef de service touristique de Kalimantan Oriental, Madame Ririn Sari Dewi, a déclaré que le festival folklorique international de Bornéo Oriental se déroulerait dans plusieurs endroits, y compris sur des scènes de spectacles d'art populaire de plusieurs pays, y compris l'ouverture et la fermeture au Stade Kadri Oning, au Creative Hub Termindung et la salle de sport Bebaya. En outre, plusieurs autres activités seront également organisées, à savoir des spectacles de danse et de musique, des compétitions sportives traditionnelles, des concours régionaux de chant et de danse spécialement destinés aux écoliers, des spectacles artistiques de quartier, des représentations de création d'orchestre d'écoliers, des arts culinaires et artisanaux, ainsi que la plantation de plants d'arbres et des autres activités. Les dernières nouvelles viennent de Makassar, Sulawesi du Sud. La ville de Makassar a encore une fois réalisé un brillant exploit parce que c'est la seule ville d'Indonésie qui a été classée dans la catégorie de la ville la plus heureuse du monde sur la base de Happy City Index. Le maire de Makassar, Muhammad Ramdan à Makassar, a déclaré mercredi que Happy City Index plaçait la ville de Makassar à la 234e place sur 250 villes à travers le monde comme la ville la plus heureuse. Il a également exprimé sa gratitude parce que Makassar avait reçu trois catégories au niveau international. Premièrement, le City Index est à la 157e position mondiale. Deuxièmement, le Smart City Index est à la 115e position mondiale. Et troisièmement, Happiness Index est inclus parmi les 250 villes du monde sur 10 000 qui sont considérées comme les villes les plus heureuses. Selon le maire de Makassar, Mohamed Ramdan, ce titre confirme également l'enquête selon laquelle Happiness Index de la ville de Makassar a atteint 82,9%. L'indice de la ville de la plus heureuse est calculé sur la base de plusieurs indicateurs, tels que la ville 207,1, le gouvernement 225,8, l'économie 322,9, l'environnement 230,6 et la mobilité 244,3. De toutes les évaluations, la ville surnommée Angin Mamiri a reçu un score de 1230,7. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 22 juin 1945, la charte de Jakarta a été officiellement rédigée. La charte de Jakarta a été ratifiée le 22 juin 1945. Elle est un projet de préambule de la Constitution 1945 rédigée par le Comité des Neuf. La charte de Jakarta contient une combinaison d'opinions entre groupes nationalistes et groupes islamiques qui ont été discutées lors de la session de l'organe d'enquête sur les efforts préparatoires de l'indépendance indonésienne. Et ensuite, un comité de neuf ont été formés, présidé par Soekarno. Donc, la tâche était d'établir la fondation de l'État. Le nom de la charte de Jakarta a été donné par Muhammad Yamin. Outre la fondation d'État de Pancasila, la charte de Jakarta souligne également que l'indépendance est un droit de chaque nation et que le colonialisme dans le monde doit être aboli, parce qu'il n'est pas conforme à l'humanité et à la justice. Le 22 juin 1956, le nom de Jakarta est à nouveau utilisé. Citant jakarta.go.id, le 22 juin 1950, le maire de Jakarta de l'époque a réaffirmé le nom de Jakarta. Au cours de son histoire, Jakarta, fondée le 22 juin 1527, a changé plusieurs fois de nom. Le 22 juin 1527, le nom Jayakarta a été utilisé pour remplacer le nom Sunda Kelapa. Pendant la période coloniale néerlandaise, les noms donnés étaient Stad Batavia, Gemeente Batavia, Stad Gemeente Batavia. Pendant la période coloniale japonaise, le nom donné était Jakarta Togubetsushi. Avant le 22 juin 1956, Jakarta s'appelait le gouvernement national de la ville de Jakarta et de Praja Jakarta. Je termine avec les événements de 1986. Maradona marque le but de la main de Dieu. Les fans de football connaissent certainement le but de la main de Dieu de la légende de football argentine Diego Maradona. Le but a eu lieu le 22 juin 1986 au stade Azteca de Mexico. Initialement, Maradona a passé le ballon devant 5 joueurs anglais, puis l'a nourri jusqu'à ce que le ballon rebondisse. Ensuite, Maradona a immédiatement accueilli le ballon avec sa main jusqu'à ce qu'il entre dans le but anglais. À ce moment-là, l'arbitre tunisien qui dirigeait le match a autorisé le but parce qu'il n'est pas clairement visible. Les joueurs anglais ont également protesté. Après 19 ans, Maradona a admis que le ballon avait été touché par sa main. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Mau tahu apa yang ada di mimpi? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku cinta.
aku mau.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter le ministère de l'entreprise d'État s'engage à faire de l'Indonésie le centre de l'industrie halal mondiale. Le ministère des entreprises d'État et la Banque Syariah Indonesia organisent la BSI International Expo 2024 au Jakarta Convention Center du 20 au 23 juin 2024. Le vice-président Ma'ruf Amin, lors de son discours à la cérémonie d'ouverture, a déclaré que l'Indonésie, à travers l'exposition internationale de 2024, pourrait renforcer les réseaux et la collaboration entre les acteurs économiques de diverses régions afin qu'ils puissent devenir le principal moteur de l'amélioration de la qualité et compétitivité des produits halal indonésiens. Le vice-président Ma'ruf Amin a déclaré que la BSI International Expo était un programme stratégique visant à démontrer diverses innovations et développements dans le secteur industriel halal national et mondial. Citant par bumn.go.id, le vice-ministre des entreprises d'État, Madame Kartika Wiryoatmojo, a déclaré que le ministère des entreprises d'État et la Banque Syariah Indonesia s'engagent à continuer d'encourager l'Indonésie à renforcer ses capacités pour devenir un acteur majeur et producteur dans la chaîne de valeur mondiale halal. Kartika Wiryoatmojo a ajouté que l'Indonésie, en profitant des avantages de la deuxième plus grande population musulmane au monde, est en mesure. Au cours de sa troisième année, BSI a affiché des performances impressionnantes. L'une d'entre elles est ancrée dans les rangs des 10 premières banques islamiques mondiales en termes de capitalisation boursière. Cela était en ligne avec la flambée de cours de l'action de l'émetteur qui a poussé la capitalisation boursière de l'entreprise à atteindre 131,47 billions de roupies le 13 mars 2024. En termes de performance financière, Kartika Wiryoatmojo a déclaré qu'en 2023, BSI était la seule banque de la Syariah parmi les 5 principales banques d'Indonésie, avec un actif total atteignant 353,4 billions de roupies et un bénéfice net de 5,7 billions de roupies. La même année, la Banque Syariah Indonésia était également le plus grand contributeur de zakat en Indonésie, soit 222 milliards de roupies. Il a continué en termes d'expansion. BSI a ouvert une succursale opérationnelle à Dubaï, les Émirats Arabes Unis, et actuellement est en train d'ouvrir une succursale en Arabie Saoudite pour continuer à développer le potentiel de l'écosystème islamique, notamment dans le domaine du Hajj et de la Umrah. Kartika Wiryoatmojo a déclaré que BSI International Expo 2024 est une manifestation concrète du soutien total des banques de la Syariah au développement de l'écosystème islamique, notamment de l'industrie halal en Indonésie. Elle espère que le programme inadapté de l'exposition pourra aider les micro, petites et moyennes entreprises soutenues par le BSI à se mondialiser, à développer leurs activités ainsi qu'à effectuer des analyses comparatives liées au développement de produits halal dans les pays islamiques. BSI International Expo 2024 devrait se tenir régulièrement chaque année et sera un événement réunissant des hommes d'affaires halal et des acheteurs internationaux par le biais de rencontres d'affaires qui auront lieu spécifiquement pendant l'exposition. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Magazine Culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le lac de Sigebiar Mangunan à Pekalongan, Java Central. Pekalongan, situé dans la province centrale de Java, en plus d'être célébré pour son tissu batik, possède également de belles attractions naturelles. L'une des destinations préférées à visiter est Telaga Mangunan, ou le lac Sigebiar Mangunan, situé dans le village de Tlogo Hendro Petung Kriono, le district de Pekalongan, dans le centre de Java. Cette zone, souvent appelée Telaga Sigebiar Mangunan, se trouve à 47 km du centre de la ville de Pekalongan et se trouve sur la route qui traverse la côte nord de Java. Le lac de Sigebiar Mangunan, qui s'étend sur une superficie de 10 hectares, se trouve sur l'un des versants nord du plateau de Dieng. L'eau du lac provient des montagnes de Kendeng, c'est pourquoi les eaux sont toujours claires et fraîches. Dans cette plaine, vous pouvez également trouver des plantes ornementales typiques de cette région, à savoir le karika. Dans cet endroit, l'atmosphère fraîche et l'air fraîche. De plus, si le billard descend, l'ambiance peut devenir encore plus exotique. Ce dégradé de couleur verdâtre enveloppé de brume crée un très beau panorama. Lorsque le billard descend, il est très agréable de contempler le panorama naturel environnant, tout en mangeant des collations locales. Le tempeh de mendoan pourrait être votre choix pour remplir un estomac vide. Bien entendu, les visiteurs peuvent également siroter du café ou bien du thé chez les commerçants locaux. Les prix des snacks vendus sont standards et il existe de nombreuses variantes. L'attraction touristique du lac Mangunan est ouverte tous les jours, de 7h jusqu'à 17h heure locale. Le meilleur moment pour visiter est le matin et le soir. Les installations de Telaga Mangunan sont également tout à fait adéquates parce qu'elles répondent aux besoins des visiteurs, comme un grand parking, des toilettes publiques, des lieux de culte, des belvédères, des manèges passionnants, des stands de nourriture, des endroits instagrammables et aussi une aire de camping. En plus de profiter du magnifique paysage naturel, les visiteurs peuvent également prendre des photos parce que l'attraction touristique du lac Mangunan possède un certain nombre de spots photos intéressants. Les visiteurs peuvent louer un bateau de plaisance pour jouer au milieu du lac. Si vous souhaitez découvrir un tourisme naturel plus excitant, vous pouvez camper au bord du lac en attendant la tombée de la nuit. Ce sera certainement plus excitant et plus agréable, parce que vous vous sentirez la nuit calme et sans bruit, véritablement en harmonie avec la nature. Si vous souhaitez passer des vacances en profitant de la beauté de la nature, Telaga Mangunan ou le lac de Mangunan situé à Pekalongan pourrait être votre alternative. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous. À bientôt.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et merci d'être fidèle à notre antenne. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le Festival Afro-Asiatique 2024 à Bandung. La ville de Bandung organisera à nouveau le Festival Afro-Asiatique 2024. le commémore de la conférence afro-asiatique de 1955, où les dirigeants de 29 pays asiatiques et africains se sont réunis à Bandung. Cette conférence a marqué une étape importante dans l'histoire de la diplomatie mondiale, établissant les bases de la coopération Sud-Sud et définissant l'esprit de anticolonialisme et anti-impérialisme. La ville de Bandung, avec sa beauté naturelle et son patrimoine culturel, est l'endroit idéal pour célébrer ses valeurs chaque année. Le chef de service de la culture et du tourisme de la ville de Bandung, M. Arif Saifuddin, a révélé que le festival afro-asiatique sera différent et plus animé en 2024, qui se tiendra les 6 et 7 juillet. Cette année, le thème est « Culture de collaboration pour la paix ». Lors de ce festival, il y aura un défilé culturel des pays participants à la conférence afro-asiatique. Divers potentiels de la ville de Bandung seront également exposés, tels que la gastronomie, les micro, petites et moyennes entreprises, le tourisme, les arts et la culture. Cette activité sera centrée dans la zone historique et le point touristique sur les routes Asia-Africa et Chika-Pundung Riversport. Cette année, le nombre de délégués inscrits est de 18 délégués nationaux et on espère que ce nombre continuera à augmenter. En 2023, près de 3700 résidents ont assisté à l'événement. Et en 2024, ce nombre devrait être encore plus grand. Le Festival Afro-Asiatique 2024 augmentera le tourisme et l'économie locale, mais aussi les contacts entre les peuples, entre les nations et élargira la compréhension interculturelle. Chers amis, c'est à la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. L'édition du magazine musical d'aujourd'hui, nous présentons une chanson de Keroncong intitulée Keroncong Jakarta, chantée par Benjamin Sueb. On ne sait pas qui était le premier créateur de cette chanson. Cette chanson a été popularisée par le légendaire artiste de Betawi, Benjamin Sueb. Cette chanson raconte de la réalité de la ville de Jakarta au passé, qui était peuplée des gens de tous les pays venus tenter leur chance dans la capitale. Dans cette chanson de Keroncong Kemayoran, le message qu'on voulait transmettre est de toujours être heureux. Parfois, une personne vit des choses difficiles ou est frappée par le malheur, mais il y aura toujours un moyen. Bon, chers auditeurs, voici Benjamin Sueb, dont le titre est Keroncong Jakarta. Bonne écoute!
Sampai berjubel-jubel Jakarta rada senggangan cuman bulan puasa orang-orang pada pulang ke kampung dan ke desa pengangguran Jakarta sudah padat penduduk makin rapet Jakarta makin padat sampai berjubel-jubel Jakarta habis lebaran.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.